Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et nous commençons cette émission par la chronique littéraire de Joseph. Aujourd'hui, Gabriel Garcia Marquez.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une simple question. Comment ne pas être envoûté par l'écriture de Gabriel Garcia Marquez ? Gabriel Garcia Marquez, alias Gabo pour les latino-américains, est un des auteurs les plus connus et reconnus de sa génération. Arrêtant ses études de droit après une année, il décide de se consacrer à l'écriture en tant que journaliste d'abord, puis en tant que nouvelliste ensuite. Il est l'un des piliers de ce que l'on appelle le réalisme magique et est connu pour ses œuvres « L'amour au temps du choléra »,« Des feuilles dans la bourrasque »,« L'automne du patriarche » et « Chronique d'une mort annoncée ». Les thèmes récurrents dans l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez sont l'amour, le désir, la mort, la décadence et la violence. Colombien, il place son récit bien souvent dans le village fictif de Macondo, qui restitue fidèlement la campagne colombienne. L'Incipit de 100 ans de solitude est un des Incipit les plus connus de l'histoire de la littérature mondiale. Ainsi, l'auteur commence son récit par la célèbre formule « Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi où son père l'emmena faire connaissance avec la glace ». Le roman narre la destinée de la famille Buendia sur 7 générations, vivant dans le village de Macondo et contrainte à vivre 100 ans de solitude d'après la prophétie du gitan Melquiades. Les Buendia vont donc traverser les guerres, les massacres et conflits de l'histoire colombienne. Le titre prend toute son ampleur à la lecture de l'œuvre, tant la solitude paraît être intimement liée à la destinée de la famille Buendia. Le village même apparaît au lecteur comme isolé, isolé de la civilisation, isolé de la modernité. La solitude est particulièrement évidente pour le colonel Aureliano Buendia dont la maladresse pour exprimer l'amour fait qu'il s'en va à la guerre en laissant des enfants de mères différentes à divers endroits. À certaines occasions, il demande ainsi qu'on trace un cercle de 3 mètres autour de lui pour éviter qu'on l'approche. Aussi, après avoir signé la paix, il se tire une balle dans la poitrine mais se rate, si bien qu'il paraît condamné à passer le restant de sa vie dans un laboratoire d'alchimie à fabriquer des petits poissons en or qu'il défait et refait dans un pacte d'honneur à la solitude. Ce qui frappe, outre le style et sa maîtrise cyclique et chronologique impeccable, outre l'ampleur, la densité, outre les considérations coloniales, outre les aspects historiques véridiques, outre l'incroyable tempérament des personnages, outre l'originalité du propos, outre le lyrisme, en définitive, outre tout, ce n'est pas l'étonnante synthèse que l'auteur a réussi à faire du destin de la Colombie. Non, ce n'est pas cela qui frappe l'inconscient du lecteur. Ce sont surtout ces subtiles inclusions de surnaturel qui passent sans surprendre et deviennent presque naturelles à nos yeux, mystifiées de toutes parts. Gabriel Garcia Marquez propose ici certainement son plus bel ouvrage, sincère et fascinant.
C'était la chronique littéraire de Joseph Gabriel Garcia Marquez. Et sans plus attendre, nous écoutons l'interview réalisée par Thomas Papin au rendez-vous de l'histoire. Il a rencontré 2 chercheuses qui ont travaillé sur l'histoire de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.
D'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, si vous voulez bien.
Oui, bonjour, je suis Claire Niau, je suis donc professeure agrégée en histoire et je travaille actuellement au service historique de la Défense.
Très bien, et vous ?
Bonjour, donc Diane Millière, je suis également agrégée et docteur en histoire et je travaille en classe préparatoire à Saint-Maur, au lycée Marcelin Berthelot.
Merci bien. Alors vous venez de réaliser une conférence sur justement l'histoire de l'Italie dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, et plus précisément des relations entre la France et l'Italie sur cette période et justement qui était un peu avec l'après-guerre. Alors je vais laisser la parole à mon collègue qui a quelques questions à vous poser.
Bonjour, je voudrais vous demander pour commencer quelles sont les relations actuelles entre la France et l'Italie par rapport à ce sujet qui est assez délicat, on peut le dire. Donc,
Oui, alors effectivement, il y a un certain nombre de contentieux mémoriels qui est hérité de cette période, hein, de la bataille des Alpes en 1940, puis de l'occupation italienne dans le sud de la France, et enfin de la présence du corps expéditionnaire français en Italie en 1943-1944. Donc effectivement, réémerge depuis le début des années 2000 une mémoire des souffrances vécues par les Italiens, hein, qui ont subi les violences de l'armée française, italiens et italiennes, puisqu'il s'agit de nombreux viols, hein, qui ont été commis par l'armée française en Italie. Toutefois, donc, localement, hein, dans cette région du Latium, il y a des revendications mémorielles. Mais il ne faudrait pas les exagérer non plus. C'est une mémoire essentiellement locale, hein, qui s'opère et qui n'est pas non plus à l'échelle nationale. Et puis, on pourrait surtout rapprocher ça du cas allemand. Hein. Il y a également eu des violences commises par l'armée française en Allemagne en 1945. Et pareil, depuis les années 2000, à peu près, hein, émerge l'idée que les Allemands n'ont pas seulement été au fond les criminels de la Seconde Guerre mondiale, mais ont été, pour ce qui concerne les populations civiles, également des victimes. C'est la toute proportion gardée, un peu les mêmes logiques mémorielles qui sont à l'œuvre.
Pour prolonger ce que disait ma collègue Claire, effectivement, alors cette mémoire conflictuelle, elle se voit notamment en ce qui concerne l'occupation italienne, dans le fait que pendant longtemps, aussi bien du côté français que du côté italien, on a refusé d'étudier ces questions qui étaient très douloureuses, notamment du côté italien, qui refusait d'admettre qu'effectivement la politique d'occupation a été si compliquée. Et du côté français, on refusait cette idée d'avoir été battu pendant la bataille des Alpes, qu'on ne gardait en souvenir finalement que la co-belligérance, etc. Et même du côté français, on a eu tendance à considérer que c'était vraiment l'Allemagne qui avait été l'élément clé de la Seconde Guerre mondiale, davantage que l'Italie.
Alors, une seconde question qu'on peut se poser, c'est du coup, quelle était la relation entre la France et l'Italie avant l'éclatement du conflit par rapport justement à l'Italie fasciste et du coup la République française, la 4ème République.
Alors, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, les relations franco-italiennes, alors il y a plusieurs phases, puisque Mussolini arrive dès 1922. On peut dire que jusqu'en 1935, les relations franco-italiennes sont marquées, c'est lié à la question de la Yougoslavie, mais relativement bonnes parce que vous avez ce cas particulier de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et Mussolini a tendance à vouloir se rapprocher encore des Français, donc vous avez le fameux front de Stresa en 1935, mais effectivement ce qui va créer une rupture en fait, dans les relations franco-italiennes, alors là je ne peux pas faire toute la chronologie, mais c'est l'invasion de Mussolini en Éthiopie en 35-36, et qui entraîne une rupture des relations diplomatiques qui ne reviendront donc en place qu'en 1938, comme l'a présenté l'inspecteur général au cours de la conférence, avec l'arrivée d'un nouvel ambassadeur, André-François Poncet, en 1938 à Rome, à Paris, et le... Enfin, non, à Rome, justement, je ne m'étais pas trompée. Le problème de cet ambassadeur, c'est qu'à peine arrivé justement en Italie, la politique italienne va à nouveau virer anti-français, puisque c'est le début novembre 38, c'est le début de la campagne de revendication territoriale italienne à l'encontre de la France, mais également d'ailleurs à l'encontre des territoires colonisés britanniques. Donc évidemment, ça va ternir les relations.
Alors, je reprends donc le micro. Une dernière question, du coup, c'est par rapport à la situation actuelle de l'Italie avec la montée justement de l'extrême droite. Ça ne concerne pas que l'Italie, mais là, puisque c'est notre sujet, je vais aborder cette thématique. Comment vous, en tant qu'historien, et sur la base justement de cette connaissance du passé historique de l'Italie, vous interprétez justement cette montée de l'extrême droite et cette résurgence d'un côté un peu fasciste en Italie?
Alors, en fait, comme vous l'avez bien dit, le cas italien n'est pas spécifique. Hein. La montée des populismes et de l'extrême droite touche toute l'Europe occidentale. Je crois qu'il faut le souligner. En revanche, peut-être si on rejoint sur la question de la mémoire et sur le rapport au passé fasciste, il est vrai que pour un certain nombre de raisons, la société italienne n'a pas nécessairement fait le même travail de mémoire vis-à-vis du fascisme que la société allemande a pu faire, enfin, et encore, c'est pas si simple que ça, vis-à-vis du nazisme. Hein. Il y a eu quand même très longtemps cette idée, et pas seulement en Italie, qu'au fond, le fascisme italien, c'était un fascisme un peu folklorique par rapport au nazisme qui était caractérisé par la Shoah, et donc, à partir de là, ne pouvait vraiment à aucun moment être minimisé. Mais alors que pour le cas italien, voilà, l'idée, par exemple, ce qu'on a beaucoup développé, mais ce qui est faux, c'est que le fascisme italien n'aurait pas été raciste, n'aurait pas été antisémite, ce qui n'est pas vrai. Évidemment, l'antisémitisme n'est pas structurant dans la pensée fasciste à l'opposé du nazisme, mais c'est extrêmement présent. Hein. Et le racisme l'est également, puisque ma collègue a parlé, par exemple, de la conquête, la conquête coloniale de l'Éthiopie par les troupes fascistes, qui est une conquête d'une violence terrible, en fait, contre les populations italiennes. Voilà, donc peut-être que ce défaut de travail de mémoire, et notamment aussi l'idée d'une interprétation du conflit, parce que le cas italien, il y a quand même une résistance énorme au fascisme, et donc on a mis sous le boisseau, il y a eu une mémoire au fond résistentialiste de la période qui consistait à dire qu'au fond l'Italie avait été résistante, hein, et du coup on a un peu oublié qu'elle avait été aussi fasciste. Voilà.
Oui, simplement pour compléter, deux aspects, pour revenir sur le côté, la comparaison avec le régime nazi, c'est que pendant longtemps aussi les historiens eux-mêmes, les historiens allemands, ont négligé de dire que l'Italie était en état totalitaire. Donc on a dit qu'effectivement ce côté totalitarisme manquait, d'où cette nuance à apporter au fascisme, qui évidemment va donner une mémoire un peu différente. Et surtout, peut-être, ce qui n'a pas eu lieu en Italie, et ça on le voit dans les archives italiennes, c'est que la plupart des anciens représentants du fascisme ont ensuite intégré sans aucun problème la République italienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de défascisation, comme on aurait pu le voir en Allemagne, même si en Allemagne aussi c'est plus compliqué que ce qu'on a tendance à dire. Mais en Italie, il n'y a pas eu cette intention-là. Donc évidemment, c'est pas le même, d'où le souvenir est un peu différent.
Eh ben, merci beaucoup à vous et encore merci pour cette conférence et tout le travail que vous avez fait sur le sujet.
Merci beaucoup.
Onde una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha, non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Prestai a un vecchio amico 100 lire e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io son ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi son cambiati, la mia donna stanca è di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con 2 o 3. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io son pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
Merci à Thomas Papin pour cette interview réalisée au Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Nous avons ensuite écouté Vittorio De Sica, Io sono pacifico. Nous suivons à présent Morgan Alano, médiateur au Conservatoire de Tours. Il nous présente le lieu.
Bonjour, Morgane Alano, donc je suis médiateur culturel au Conservatoire de Tours.
Donc ça consiste en quoi être médiateur au Conservatoire de Tours?
C'est très varié, donc c'est les relations avec les partenaires, avec les structures avec lesquelles on monte des spectacles ou les structures qui invitent le conservatoire ou certains élèves à participer à des événements, des festivals. Voilà, c'est la relation avec les parents, la communication sur en fait sur toute l'action culturelle du conservatoire. Il faut donc prévenir les parents sur les horaires des répétitions, etc., les tenues à mettre. C'est très varié, il y a plein de choses.
Et alors le conservatoire de Tours a plusieurs disciplines. Est-ce que vous voulez nous rappeler dans lesquelles on peut trouver ici?
Donc la musique essentiellement, on va dire les deux tiers des élèves, c'est des musiciens. Après, on a la danse et l'art dramatique.
Donc là, justement, on est dans la salle d'art dramatique.
Oui. Oui, oui, une salle qui a subi un petit coup de jeune il y a un an à peu près, où ils ont tout repeint pour faire le noir. Donc on a eu un peu de nouveau matériel, de son, de lumière, histoire qu'ils puissent bosser dans des conditions se rapprochant de la scène.
Là, qui s'occupe du pôle art dramatique ici?
Alors c'est Philippe Lebas et Christine Joly qui sont les deux enseignants principaux de l'art dramatique.
Bon ben, et là donc il y a des spectacles régulièrement, des répétitions publiques?
Là c'est essentiellement les cours, il y a quelques représentations publiques. Après sur les gros spectacles du département art dramatique, ça se fait au CDNT, le Théâtre Olympia, avec qui on a un partenariat, et donc les gros spectacles se font là-bas. Parce que là, on a une très petite capacité d'accueil.
Donc là, nous sommes dans l'auditorium.
Ouais, l'auditorium du conservatoire, donc qui est la plus grande salle qu'on ait. Donc une salle assez polyvalente, ça va des réunions de rentrée avec les 92 enseignants et le personnel, aux auditions de classe, aux répétitions d'orchestre. Donc comme vous voyez, il y a tout un tas d'instruments de percussion, il y a les pupitres. Voilà, donc là, le mercredi après-midi de 13h à 18h, il y a tous les orchestres des différents niveaux qui s'enchaînent. Donc voilà, c'est une salle qui est très remplie et très animée.
Elle s'appelle comment cette salle? J'ai vu qu'elle avait un nom.
Ouais, c'est l'auditorium Jean-Marc Cochereau, qui est l'ancien directeur du conservatoire. Ouais, donc dans cette salle, on y fait également les présentations scolaires. En fait, c'est les élèves qui sont en classe horaire aménagée à l'école Francis Poulenc, juste à côté. Qui trois fois par an se produisent devant des écoles de la ville qu'on fait venir, des classes de CP essentiellement. Donc voilà, ça permet aux enfants de découvrir le conservatoire, les instruments de musique. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Vonner.
Alors là, nous sommes où sommes-nous d'ailleurs dans cette pièce? On voit il y a deux clavecins. Où est-ce qu'on est?
Il y a même un troisième clavier, il y a un petit orgue positif aussi. Nous sommes au Conservatoire de Tours, dans la salle principale du département de musique ancienne, qui est assez important dans notre établissement. Donc c'est là que sont stockés les instruments à clavier anciens, mais aussi toutes sortes d'instruments qu'on enseigne au conservatoire, c'est-à-dire des violes de gambe, des flûtes à bec, des instruments à hanches, l'ancêtre du trombone qui s'appelle la sacboute, le cornet, les harpes anciennes, et j'en oublie aussi.
Alors là, par exemple, on voit cet instrument rouge. Est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors ça, c'est un clavecin. La différence des instruments modernes aujourd'hui, c'est que rien n'était standardisé dans les temps anciens. Jusqu'au 19e, chaque instrument est un peu différent suivant les habitudes nationales des différents pays ou les cultures différentes. Donc là, c'est un instrument français qui date à peu près c'est une copie d'un instrument du 18e siècle. Et le principe, c'est simplement que les cordes sont pincées. Donc un clavecin, c'est un peu comme une grande guitare ou une grande harpe. Et les cordes sont pincées, mais par un mécanisme, en fait. Ce sont des petites plumes d'oiseaux qui pincent les cordes. C'est le principe du médiator comme sur les guitares d'aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez le faire sonner pour voir?
Bien sûr.
Voilà. Et là, juste à côté, on voit qu'il y a un autre avec deux claviers cette fois-ci.
Tout à fait. Donc ça, c'est un instrument qui est plus ancien. C'est une copie d'un instrument du XVIIe siècle. Et les instruments avec deux claviers, alors historiquement, c'est pour des raisons un peu compliquées là que je peux pas aborder hein, en peu de temps. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça permet d'avoir deux plans sonores. C'est-à-dire un plan sonore qui est fort, qui permet de pincer deux cordes sur le bas du clavier. Et le deuxième clavier, c'est un son plus doux.
Est-ce qu'on peut jouer des deux claviers en même temps ou est-ce que c'est moche ?
Non, on peut, et on peut faire des choses effectivement qu'on ne peut pas faire sur un piano, c'est ce genre de choses.
Vous avez combien d'apprenants, en fait, combien de personnes qui viennent ici s'exercer sur ces deux instruments ?
Alors, là, au conservatoire, en fait, on a deux systèmes. Il y a un système traditionnel, si vous voulez, de cours hebdomadaires avec des enfants et des plus grands. Donc là, il y a à peu près plus de 25 personnes qui sont inscrites en clavecin. Et on a aussi ce qu'on appelle le département de musique ancienne, qui sont des stages en fait soit ouverts aux amateurs, soit des gens pour le perfectionnement, parce qu'on a des enseignants assez réputés. Et à ce moment-là, il y a encore une vingtaine de personnes qui peuvent s'intéresser au clavier au sens large. Et mais on a beaucoup d'instruments. Donc l'un dans l'autre, notre enseignement hebdomadaire et l'enseignement de la musique ancienne en général, il y a presque 200 inscrits. Voilà, ce qui fait beaucoup en fait pour les musiques qui vont de la musique médiévale jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
On dirait que le son de cet instrument-là est plus métallique que celui-ci, que le second.
Plus ou moins. Après, ça dépend aussi des goûts. Les cultures sont effectivement un petit peu différentes. Vers le 17e, en général, on préfère un peu du son un peu plus fondamental. Donc, ce que vous appelez métallique, effectivement, c'est simplement qu'il y a plus de richesse harmonique. Donc, il y a plus de composantes aiguës dans le son, qui effectivement a un goût que les Français appréciaient beaucoup au XVIIIe siècle. Ça donne un son plus riche, en fait, d'un point de vue même physique.
Là, je vois derrière vous l'expression des intervalles d'après Johann Philipp Kirchberger, je ne sais pas comment on dit. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, l'apprentissage de la musique ancienne passe évidemment, parce qu'on ne peut pas écouter de CD du XVIIe siècle, comme ça n'existait pas. On travaille sur ce qu'on appelle des sources anciennes, donc qui sont en fait des traités. Et il y a effectivement des commentateurs, soit des musiciens, soit des théoriciens, qui nous parlent de la musique. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui a l'air un petit peu pointu, parce que c'est des traités en allemand très compliqués. Mais nous, les profs, on est justement des passeurs pour lire des vieux traités en allemand un peu poussiéreux et les expliquer dans des termes d'aujourd'hui. Ça, par exemple, c'est la différence des intervalles, c'est-à-dire la distance entre deux notes. Tout était codifié au XVIIIe siècle, donc vous avez un certain intervalle, vous voyez, la prime augmentée qui va être un effet angoissé en montant, qui est extrêmement triste en descendant, etc. Sont en fait des codifications, un peu comme on a dans le théâtre au XVIIe siècle aussi, avec la théorie des passions.
Voilà, donc là on voit qu'on peut traduire presque toutes les émotions humaines à partir d'harmonie, enfin.
Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est les intervalles. C'est-à-dire que la grande caractéristique de la musique ancienne, mais c'est encore un peu le cas au XIXe siècle, c'est qu'en fait, elle est pensée comme un langage, comme un discours. C'est-à-dire que elle est basée sur la rhétorique. Alors, c'est un mot compliqué, mais qui désigne simplement l'idée qu'en fait, la musique doit agir sur les corps et sur les sentiments comme un discours, avec toutes ces règles qu'on trouve aussi au théâtre ou comme au cinéma aujourd'hui, par exemple.
Donc, par exemple, un son horriblement effroyable. C'est quoi ?
Il est... Je peux vous le faire exactement. Ça, c'est la septième majeure. Pour un ancien, c'est ça.
Allez, après, j'arrête de vous embêter, mais si on veut un son, parce qu'on a été dans l'horriblement effroyable, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus réjoui ? Tiens, oui, vous avez raison.
Voilà, ben, réjoui.
Donc ça veut dire que si on écoute des enregistrements bon, d'aujourd'hui, mais sur ces musiques anciennes, on peut essayer de relire, de comprendre quelle était l'intention de la personne qui a composé la musique à l'époque.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, en fait, quand on voit ça, par moment, à la fois, ça nous semble un peu étrange, mais en même temps, il y a plein de choses qui sont rentrées aussi dans la musique d'aujourd'hui, parce que la musique d'aujourd'hui, elle arrive aussi de cette époque. C'est-à-dire que le langage tonal, qui est le langage universel aujourd'hui, ou quasi universel, il se met en place justement autour du milieu du XVIIe siècle. Donc, tous ces commentateurs qui écrivent des choses un petit peu modernes, un petit peu, pour eux, c'est de l'innovation, ça correspond aujourd'hui à quelque chose qui est presque naturel. Voilà, si vous jouez ça à un enfant d'une école primaire aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il entende ça de manière gaie, et ça de manière effroyable.
Voilà, donc en fait c'est rentré dans nos représentations.
D'une certaine manière, tout à fait, oui, ça fait partie de notre culture, comme des codes de couleurs qu'on a dans les arts plastiques, par exemple, ou dans des codes, voilà, je parle aussi beaucoup de cinéma, parce que c'est un art qui est très, très fort pour des gens du 21e siècle. Il y a comme ça des codes qui fait que quand vous avez un tel type de plan, tel type de musique, vous avez un type d'émotion qui est associé. Et la musique fonctionnait exactement pareil à l'époque.
Et plus aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a pas des artistes quand même qui travaillent avec cette idée d'émotion.
Si, si, bien sûr. C'est simplement qu'elle est, pas codifiée de la même manière. Là, le traité que vous citez, c'est à l'époque des encyclopédistes. Donc, les gens ont évidemment très envie de codifier ce genre de choses. Aujourd'hui, on a d'autres problématiques de codification de la musique qui sont différentes. Alors, soit dans la musique savante, c'est effectivement un peu une autre histoire, c'est une histoire parallèle. Mais il y a des théoriciens qui parlent de toutes sortes de musiques. Voilà. C'est simplement que la production de savoir sur les pratiques artistiques est différente suivant les époques.
Peut-être des musiques que vous aimeriez recommander à nos auditeurs s'ils veulent aller écouter quelque chose. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez?
C'est difficile à dire parce que moi je m'occupe de 3 siècles de musique, donc c'est des milliers, des milliers, des milliers d'œuvres. Là, à Brûle-Pourpoint, Tours, c'est une grande ville de la Renaissance, donc aller écouter de la musique de la Renaissance. On a beaucoup parlé des 500 ans là avec Vinci, d'écouter la musique française de la Renaissance qu'on a beaucoup fait à Tours. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites autour de 1530 avec Attégnan. Après, à l'orée du siècle, au début de la musique baroque, les grandes stars qui inventent l'opéra et qui inventent la nouvelle musique baroque, les grands compositeurs recommandables, c'est par exemple Monteverdi qui a fait le premier grand opéra digne de ce nom. Et puis un siècle plus tard, à l'autre passage de siècle, les grands compositeurs très connus, ça va être par exemple Jean-Sébastien Bach ou Handel ou Scarlatti par exemple, qui sont effectivement des compositeurs auxquels on peut toujours revenir. Voilà. Mais c'est un choix que vous me posez là tout de suite, mais je pourrais le contredire dans 10 secondes. Quoi.
Bah, c'est pas grave, vous pourrez toujours venir à Campus dans une émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Là, on a une salle de danse.
Ouais, la salle Maillot. Donc c'est une des plus grandes salles de danse qu'on ait, avec du parquet qui a été posé spécialement pour les danseurs, pour avoir une certaine élasticité. Bon, bah, c'est les danseurs qui pourront mieux vous parler de ça. Voilà.
Et il y en a combien des salles de danse ici?
Il y en a 3.
Il y
en a même 4 en fait, parce qu'en fait en dessous là il y a la chapelle, qui cette année est fermée parce qu'il y a des travaux de rénovation. Elle va être rénovée en salle de spectacle. Et donc c'était une salle qui servait pas mal aux cours de danse. Donc on a déporté ça dans une autre salle que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ouais, 4 salles de danse.
Salle Couperin, salle Bartok, salle Forêt, salle Lalo. Salle Dubois, salle Saint-Saëns. Salle du Parc, salle Gounod, salle Ravel, salle Thibault, salle Debussy, Donc là, c'était les salles de répétition.
Ouais, des salles de cours pour les cours individuels. Donc il y a tous les cordes, les bois, le piano. Les salles sont aussi ouvertes aux élèves pour qu'ils puissent venir répéter et travailler leur instrument.
Alors Maxime, vous êtes élève du conservatoire, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en percussion.
Et alors là, vous êtes venu ici pour répéter. C'est quoi cet instrument dont vous jouez ?
Là, c'est un marimba de 5 octaves. Et sinon, il y a plein d'instruments en percussion, comme vous voyez.
Est-ce que vous voulez nous décrire les autres instruments qu'il y a là, ici ?
Alors là, il y a un marimba, un vibraphone avec une pédale pour la résonance, un xylophone que tout le monde connaît, a priori. Là-bas, il y a des timbales, il y en a 5. Vous avez plein de multipercussions après.
Et donc vous jouez spécifiquement de cet instrument-là ou vous jouez d'autres aussi ?
Moi je joue percussion, toute percussion, et après je fais pas mal d'autres instruments à côté.
Donc c'est-à-dire que vous jouez de combien d'instruments à peu près ?
Dans la percussion ? Il n'y a pas de nombre défini, on reste beaucoup sur 5-6, mais après on peut faire plein de choses, il y a plein de multipercussions.
Voilà, enfin, pardon, c'est une question un peu naïve, mais j'imagine que c'est pas du tout la même chose de jouer du marimba que, par exemple, une des caisses là-bas ou une des cymbales.
Pas du tout. Mais il y a plusieurs techniques. Nous, pour les claviers, on a une technique 4 baguettes ou 2 baguettes. Et après, pour tout ce qui est caisse, multipercussion, c'est une technique de poignet, en fait. Enfin, 2 baguettes.
Et là, est-ce que vous voulez nous faire écouter un peu cet instrument ? Comment on joue quelque chose ? Alors, c'est quoi cette musique ?
Ça s'appelle Chain, de Hatsume, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Et c'est une musique assez difficile au marimba. C'est un morceau technique, très rempli en rythme. Enfin, très rythmique, quoi. Mais on fait beaucoup aussi de bacs au marimba, des choses plus douces.
Par exemple ? Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose de plus doux, comme vous dites ?
J'ai pas trop, juste le début.
Voilà.
Suite de bac.
Eh bien, merci. Et vous vous destinez à être musicien professionnel ?
Oui. J'espère.
Quelles étapes il reste dans votre parcours pour y parvenir ?
Je sais pas trop. En ce moment, je suis en musicologie en plus. Et je fais un parcours jazz à côté. Donc, je sais pas trop. Ça dépend de ce que je vais faire plus tard. Il y a des pôles supérieurs, je verrai. Là, je suis en DEM pour l'instant.
Bon, et ben alors, on vous souhaite bon courage.
Ben, merci beaucoup.
Donc là, on entend carrément une cour d'école.
Oui, parce que le bâtiment qui est de l'autre côté de la cour, donc c'est une annexe du collège Paul-Louis Courier. Et donc les collégiens qui sont en classe horaire aménagée pour la pratique de leur instrument ont des horaires de cours adaptés. Donc font les cours classiques, maths, français, anglais, ici, et traversent la cour pour faire leurs cours d'instrument dans le conservatoire. Et donc on a là, derrière encore, il y a l'école primaire Francis Poulenc, où pareil, il y a les classes CHAM, classe horaire aménagée. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two.
And if in the world there were only tristesse, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Hey, daffodil, I'm doing girl, I'm doing zika, I'm doing girl. Hey, daffodil, I'm doing girl, I'm doing girl, I'm doing girl. Hey, daffodil, I'm doing girl, I'm doing girl, I'm doing girl. I'm doing girl, I'm doing girl. Hey, daffodil, I'm doing girl. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something missing. Te recuerdo, habrá un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en el cuarto de un hotel estrellado, donde fuimos un regalo divino. Un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino, un regalo divino. Mira, mira, mira vos.
Nous écoutons à présent la chronique de nos bibliothécaires.
Oui, bonjour, alors c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours et moi mon truc c'est la BD, donc bah, tout à l'heure je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, mais bien les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours, sur Radio Campus Tours.
.com.
.com.
Je voudrais parler de Popeye.
Bonjour Corinne.
Bonjour. C'était pour vous inviter donc à venir pour une rencontre littéraire le samedi 16 novembre à 15h à la bibliothèque. Directement, la rencontre se fera directement dans la salle de lecture publique au premier étage. Et donc on va recevoir une figure chinonaise fort connue, c'est Jean-Paul Robert. Donc c'est un auteur local. C'est son qui vient d'écrire son troisième roman policier, qui s'appelle La fille qui fredonnait. Et on aura la chance, en fait, on le reçoit ce jour-là, en fait, le samedi 16 novembre, parce que le week-end suivant aura lieu la quatrième édition du salon Polar sur Loire. Et du coup, on aura en même temps que Jean-Paul Robert la présence de Béatrice Egemar, qui est aussi une auteure locale. Elle est de Fondette. Elle a écrit des romans à la fois jeunesse et des romans adultes. Et elle viendra nous parler de ce festival donc, qui aura lieu lui, le week-end d'après, le 23 novembre. Parce que c'est un festival un petit peu particulier, parce qu'il est organisé et géré par des auteurs lui-même. Et c'est un salon qui met en avant les livres policiers qui sont écrits par des auteurs du Val-de-Loire. Donc, pour notre rencontre, nous, le 16 novembre, donc on va recevoir Jean-Paul Robert. Donc, La fille qui fredonnait, c'est le roman se passe lui-même directement dans Chinon. Et pour les gens qui connaissent un petit peu Chinon, là, l'histoire, l'intrigue, elle se déroule sur les deux jours du marché médiéval de Chinon. Et sauf que le marché commence très très mal. Parce que au matin même, alors que la vie elle commence à résonner de mille bruits, il y a deux corps qui sont retrouvés, celui d'une jeune femme et celui de ce qui semble être sur la scène de crime en fait son violeur. Sauf que le lecteur sait dès le début que ce n'est pas le violeur. Alors, ben, comme dans tout roman policier, en fait, très vite, les forces de l'ordre sont mobilisées, arrivent sur place parce qu'on est sur un week-end de manifestation, les forces un peu plus politiques. Donc, le préfet qui voudrait interdire, enfin annuler la manifestation, le maire qui, lui, ne veut pas du tout. Voilà, donc, on va dire que le week-end va avoir lieu, donc au milieu un petit peu de toute cette fête rabelaisienne, nous on sait, chacun chante, boit, rit, etc. Mais nous on s'attend tout le long. Il y a vraiment une intrigue où on se dit oh là, on sait dès le début que nous qui semble être le coupable n'est pas le coupable. Donc il y a vraiment toute une intrigue dès le début et on est vraiment emporté dans le roman. Voilà. Alors après, je ne peux pas en dire trop parce que le but, c'est de venir le samedi 16 novembre à la bibliothèque pour du coup rencontrer Jean-Paul Robert, mais aussi en même temps Béatrice et Gémard qui sera présente. Donc l'occasion de rencontrer deux auteurs locaux, de pouvoir échanger avec eux parce que moi, je vais introduire un petit peu la rencontre. On va discuter du livre et puis après, les personnes présentes, le public pourra aussi échanger et puis il y aura une partie dédicace à la fin des livres de l'auteur.
Et alors ces rencontres avec auteurs, c'est quelque chose qui intervient régulièrement à la bibliothèque municipale ?
On en fait assez régulièrement, oui. On a eu par exemple Rachel Kahn l'année dernière, Jérôme Ferrari, on essaye. Alors c'est pas toujours évident, mais à organiser, mais ça fait partie pleinement de notre rôle. C'est quelque chose au contraire que le public plébiscite et nous aussi.
Comment vous choisissez les auteurs qui viennent se produire entre guillemets ici? Comment vous les... Est-ce que vous essayez de varier les esthétiques? Est-ce que vous essayez de varier les genres?
On essaye de varier les genres. On travaille notamment au mois de juin. En général, on a toujours un auteur BD. On essaye de varier. Là, c'est du roman policier, mais aussi du roman. Après, on fait beaucoup de demandes. On n'a pas toujours satisfaction, c'est assez difficile parce que c'est vrai qu'il y a souvent ils ont des marchés un petit peu avec les quand ils sortent un livre avec les librairies, mais avec les bibliothèques il y a beaucoup d'auteurs qui aiment pas forcément en plus ce contact avec le public, donc ils le font un petit peu parce que dans leur quand ils ont un livre qui paraît, ils sont tenus à avoir quelques rencontres en librairie, mais en bibliothèque, c'est pas dans les contrats. Donc après, il y a des gens qui aiment ça. On avait eu Marie Cizin. Alors c'est une pour un de ses livres, La gouvernante suédoise. Alors, moi, je sais que je la suis un petit peu sur Facebook. Elle est tout le temps. Enfin, elle, c'est une dame qui a 85 ans, 86 ans. Et elle va partout. On voit qu'elle bouge tout le temps. Et en fait, il y a des auteurs qui aiment, il y a des auteurs qui n'aiment pas. Ils sont plus ou moins accessibles et ils n'y reprennent pas. Enfin, mais on essaye de varier en tout cas, nous. On essaye de proposer des choses. Et puis là, c'est l'occasion du coup du festival Polar sur Loire où on s'est dit c'est bien du coup de recevoir un auteur local.
Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers d'une rencontre que vous aviez trouvée vraiment extraordinaire à part cette dame dont vous venez de parler ? Est-ce que vous avez...
J'avais bien Rachel Kahn, elle est complètement pétillante en fait. C'est une jeune fille qui est. Elle est de Tours à la base. Elle était née à Tours. Sa maman tenait l'ancienne librairie, la boîte à livres de l'étranger. Donc très ancrée à Tours. Et puis maintenant, elle est sur Paris. Elle travaille. Auprès de politique. Enfin, elle a fait tellement de choses. Elle fait du cinéma. Elle avait monté les marches lors du festival de Cannes quand il y avait eu l'année dernière toutes ces femmes noires qui voulaient avoir plus de visibilité. Donc elle fait du cinéma. Elle a travaillé avec Gaëlle Faye. Elle connaît Gaëlle Faye. Elle chante. Elle danse. Elle fait de tout. Enfin, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre qui sont rayonnantes.
Est-ce que ça vous arrive de voir chez le public en fait un espèce d'effet, alors je sais pas, parce que j'ai entendu ça, un effet de se dire tiens, on rencontre un auteur en vrai, enfin de voir un auteur vivant. Est-ce que ça vous arrive de voir cet effet-là chez les lecteurs, chez les gens?
En général, les gens sont contents, mais. Dire ce qu'ils ressentent, j'avoue, je ne sais pas trop.
C'est vrai que c'est difficile à dire. Peut-être l'idée, je pense au public qui ne sont pas les plus familiers, en tout cas, de la lecture, et de se dire, tiens, on peut quand même assez facilement, dans un lieu qui est public, on peut venir rencontrer quelqu'un qui écrit, dont c'est le métier, en fait. Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de se dire, y a des gens dont c'est vraiment le talent et le métier d'écrire.
Donc, oui.
Et ils sont vivants.
C'est ça, c'est pour ça il faut venir. Enfin, il faut franchir le pas. Il y a déjà des gens qui franchissent pas les pas de la bibliothèque. Là, en plus, c'est l'occasion d'être. Enfin, comme vous dites, ils sont vivants, de rencontrer vraiment les gens, de comprendre le processus de création, comment ils écrivent. Enfin, on aborde souvent ces questions-là où le public les pose si ça n'a pas été abordé lors de la rencontre. Et c'est vrai que ça rend c'est l'humain, c'est la rencontre, c'est vraiment la base. Au-delà de la lecture, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, en fait, cette rencontre.
Et puis d'être aussi peut-être dans le rôle de médiateur, d'être le lien, oui. En fait, entre les...
Oui.
Ça, c'est...
C'est pas facile toujours à faire, ce rôle de modérateur, mais c'est toujours un peu stressant. Puis c'est vrai qu'avec des fois qu'un auteur, on ne sait jamais. Il y a toujours un certain stress, mais en général, c'est des gens adorables en fait. Finalement, c'est ça, c'est des gens comme nous, mais avec un métier différent, un métier public souvent.
Je vais allumer le micro. Je vois qu'il y a une réaction dans le public.
Moi, je voulais rebondir sur votre question sur l'effet waouh de la part du public. Je vais parler des enfants. En fait, quand ils sont en présence d'un auteur, d'un écrivain, ils ont vraiment, eux, cet aspect waouh. Ils n'en viennent pas de voir une personne en chair et en os devant eux qui peut écrire des ouvrages. Et ils sont vraiment émerveillés, époustouflés, parce que... Bien qu'ils soient tout petits et qu'on est dans une époque très moderne, ils ont l'impression que les auteurs, ils sont tous morts. Et c'est ça qui est merveilleux, de voir leur réaction, de voir quelqu'un devant eux, qui respire, qui peut parler, qui leur raconte plein de choses. Et ça les émerveille et c'est fabuleux de voir cette rencontre avec les enfants et les écrivains.
Bon, bah, je réagis comme un enfant, voilà, je me le tiens pour dit.
Mais bon, en tant qu'adulte, on peut aussi avoir des gros coups de cœur et se déplacer pour voir un auteur que l'on apprécie beaucoup.
Et alors, donc voilà pour cette prochaine rencontre, on peut peut-être rappeler la date ?
Le samedi 16 novembre à 15h, voilà. Dans la salle de lecture publique.
Et donc, c'est pour l'ouvrage
La fille qui fredonnait.
Voilà, La fille qui fredonnait.
De Jean-Paul Robert.
Et peut-être, est-ce que...
L'ouvrage, du coup, est disponible... Enfin, on a deux ou trois exemplaires, je crois, de l'ouvrage dans les bibliothèques de Tours.
Et est-ce qu'il y a... Après, peut-être, on reviendra pour parler des autres rencontres, parce que j'imagine que dans l'année, il y en a d'autres, des rencontres d'auteurs.
Pour l'instant, de fixer comme ça... Alors, en juin, ça sera autour de la bande dessinée...
Bon, et bien merci. Et je pense que toutes les informations sont à retrouver sur le site de la bibliothèque municipale.
C'était les bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Nous écoutions Mira de Mélodie Gardot. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Vous écoutiez La Méridienne sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Cette émission est à réécouter ce soir à minuit sur nos ondes et en podcast. Bonne journée à tous.